peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Tout d'abord, nous vous diffusons le reportage que nous avons pu réaliser le samedi 8 juillet dernier, lors du rassemblement à République aussi, qui était appelé par le comité Adama Traoré pour la vérité et la justice et contre les violences policières. Ensuite, et pour aller plus loin sur ce sujet, nous vous diffuserons un interview d'Émilie. Émilie est une habitante de Saint-Denis qui participe du collectif Stop aux violences policières qui s'est montée depuis maintenant un an sur la ville. Nous discuterons donc avec elle des récents événements qui ont pu se dérouler à Saint-Denis et de cet appel à manifester pour le 15. On vous laisse donc écouter le premier reportage réalisé lors du rassemblement appelé par le comité Adama Traoré le 8 juillet dernier et on vient ensuite dans l'actualité des luttes. Le 8 juillet dernier devait se tenir la marche organisée par le comité Vérité et Justice pour Adama à Persaumont-Beaumont, comme tous les ans depuis 7 ans. Néanmoins, 24 heures avant la marche, celle-ci était interdite. Le comité Adama a cherché à faire un recours qui n'a malheureusement pas abouti. Ainsi, ils ont alors appelé à se rassembler à République, à 15 heures. Et une fois de plus, ce rassemblement a été interdit par la préfecture. Et face à cette interdiction, le comité a tout de même maintenu son rassemblement. Nous nous sommes donc retrouvés à 15h sur la place de la République, le samedi 8 juillet 2023.
On a dit que le peuple aura le dernier mot. On a dit que le peuple aura le dernier mot. Liberté ! Liberté !
Liberté !
Liberté ! Si vous voulez la paix, on veut la liberté. On a le droit de dénoncer. Aujourd'hui, nous sommes ici, sur la place de la République. Et nous allons remplir cette place de la République. C'est le peuple français. Aujourd'hui, il y a tout le monde sur cette place. Ils nous ont interdit de marcher à Beaumont-sur-Oise. Bah, ils nous ont rendu encore plus forts. Ils nous ont rendu encore plus forts. Parce qu'on est là. Ça fait 7 ans. Et on lâchera jamais. Ils nous ont nassés. On leur a montré que c'est la on ne veut pas la violence. On veut juste s'exprimer. Aujourd'hui, nous demandons à ce que tous les policiers responsables de la mort d'un de nos membres, de chaque personne, doit aller en prison et doit répondre de ses actes. Personne n'a de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Personne ne doit décider qui doit vivre ou mourir. La peine de mort, elle a été abolie. Plus battons-nous pour que dans notre pays, que la peine de mort ne soit pas rétablie. Il faut se battre. La France est notre pays. L'histoire racontera que le peuple français s'est levé. Que le peuple français s'est levé pour sa liberté. Que le peuple français s'est levé pour dénoncer les violences policières. Que le peuple français s'est levé pour la justice. Que le peuple français s'est levé pour l'égalité.
Pas de justice,
Pas de justice, bien évidemment. Aujourd'hui, on se bat. La peine de mort, elle a été abolie. Battons-nous pour notre pays qui est la France, pour que la peine de mort ne soit pas rétablie. Ce pays est notre pays. Nous vivons ici, on ne peut pas accepter que des personnes, que des policiers puissent avoir un droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus fort et ce qui est encore plus déshumanisant, c'est que nos morts n'ont même pas le droit d'exister en étant morts. Et ça, c'est inacceptable. Ça, on ne peut pas l'accepter. Nous sommes les voix vivantes. Je suis la voix vivante de celle d'Adama Traoré. Des combats ont été menés avant. On a des membres du MIB qui sont là, à côté, tout de suite, le mouvement des banlieues et de l'immigration, qui ont fait un travail exceptionnel, extraordinaire pour nos quartiers populaires. Et on se battra pour la survie de nos frères, on se battra pour la survie de nos quartiers, mais on le fera ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on a gagné dans le combat,
c'est la convergence.
Ce qu'on a gagné dans le combat aujourd'hui, c'était un combat qui appartient à la société civile. Aujourd'hui, tout le monde peut porter ces questions-là. C'est ça, ça c'est une victoire, ça c'est important. Qu'on vienne des quartiers ou pas des quartiers, personne ne verrait ses spectateurs de la mort de qui que ce soit. Et ça, c'est une belle victoire. Quand on vous regarde tous, quand on est là ensemble, on est là pour un seul mot, pour la liberté, pour la justice et pour l'égalité. Et ça, c'est important. Et continuez à dénoncer les violences policières. Et le monde entier, j'espère que le monde entier verra ces images et dire qu'en France, ce n'est pas un État démocratique. La preuve, aujourd'hui, on l'a eu avec nous sur l'affaire Adama Traoré. Et aujourd'hui, on dénonce aussi ce déni de justice qu'il y a dans l'affaire Adama Traoré, qu'il y a aussi dans d'autres affaires. Et ça, c'est important. La justice doit être garante de nos droits. La justice doit nous protéger. La justice doit être un bouclier pour nous. La justice ne doit pas nous jeter dehors. La justice ne doit pas nous faire du mal. Et aujourd'hui, nous attendons aussi la mise en examen des gendarmes. Nous attendons un procès public. La France, le peuple français réclame un procès public dans l'affaire Adama Traoré et comme dans toutes les autres affaires. Les images de Naël ont choqué du monde, ont choqué tout le monde. Mais nous, on a été choqués bien avant et on le dit depuis longtemps. On ne nous écoutait pas. Quand Babacar Gaye prend plusieurs balles à bout portant dans le corps en Bretagne, quand à Rennes, quand Gaye Camara, une balle dans la tête, quand Olivier Gomez, une balle dans le cou, et il y en a d'autres. On a le comité Claude Jean-Pierre qui est là, en Guadeloupe, qui est mort d'un pliage. On a le comité à la justice pour Alassane en prison. Il faut savoir qu'en prison aussi, quand on se bat, on dénonce aussi les morts qu'il y a dans les prisons, la maltraitance qu'il y a dans les prisons. Alassane Sangaré qui est mort aussi en prison, ce collectif est là. On a aussi d'autres collectifs qui sont là. Mahamadou qui est mort aujourd'hui parce qu'un ancien militaire l'a tué à bout portant en sortant de chez lui. Et tout ça, c'est important de continuer à le dénoncer. La liste peut être longue. On a Ibo à Sarcelles, on a Mozamba à Sarcelles, on a Mohamed à Marseille, on a Mehdi à Marseille, on a Rayana dans le 18e. La liste est trop longue. On pourrait citer tous les noms. Et ça, c'est pas normal. Et on se bat pour qu'aucune famille puisse subir ça. Et on demande, nous, on se bat contre la déshumanisation qui est posée sur nous. Quand cette déshumanisation nous tue. Et aujourd'hui, on est là. On est sur la place. Moi, je vous remercie beaucoup. Et on marche pour la liberté. Et on est là pour la liberté.
Madame, juste une question. Il y a des élus. Il y a des élus qui sont là aujourd'hui, ils étaient plutôt repoussés lors des émeutes du week-end dernier. Pourquoi c'est important pour vous qu'ils soient là, les élus, aujourd'hui?
Les élus sont garants de nos droits. C'est de la responsabilité de dénoncer. Aujourd'hui, si moi, je vais avec des élus, il faut qu'ils prennent ses responsabilités de montrer et de dire, moi, je ne vais pas à l'Assemblée nationale. Ils y vont. Ils doivent dénoncer, être garants de nos droits. Donc c'est important qu'ils soient là, qu'ils portent les voix, toutes ces voix-là, pour dénoncer et retirer des lois et mettre des lois pour la survie de tout le monde.
Et beaucoup dans les quartiers ne pensent pas comme vous, justement, disent qu'ils ont été abandonnés par les élus et qu'ils n'ont pas leur place dans ce type de rassemblement.
Mais c'est sûr, c'est une évidence. Mon frère ne serait pas mort sinon. Mais si aujourd'hui ils sont là, s'ils sont là et qu'ils prennent leur responsabilité, c'est important de le prendre. Aujourd'hui, tout, que ce soit les élus, la justice, la police, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Ils sont garants, ils ont le pouvoir entre les mains, que ce pouvoir doit être pris. Et c'est important.
Et notamment les élus de la France Insoumise, c'est eux qui sont importants pour vous aussi, qui sont proches de vous.
Tous les élus doivent dénoncer. Tous les élus. Quand tu es élu, tu es garant d'un pouvoir.
Aujourd'hui, tous les quartiers populaires et tous les collectifs sont présents. Toutes les associations institutionnelles sont présentes. Tous les syndicats d'avocats, les syndicats des activités salariales sont présentes. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont exprimé, c'est non aux atteintes aux libertés de s'exprimer, aux libertés de se rassembler, aux libertés manifester. Je vous le demande, relayez cette information. Prenez-la, un témoin. L'unité est fondamentale. La convergence est fondamentale. La décision qui a été prise hier, elle est non seulement à l'endroit du comité Adama, mais elle est aussi à l'endroit de cette unité. La division, c'était le message que ce gouvernement voulait porter. Nous ne l'accepterons pas. La démocratie est en marche. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des non-humains. Nous sommes des individus. Et nous avons le droit de vivre et nos enfants également. Plus jamais nous serons désunis face aux attaques liberticides. Nous resterons unis et nous porterons la parole de toutes et de tous.
Je suis un proche de la famille de Naël. J'entends souvent les policiers dire que les jeunes dans les quartiers voulaient se faire des policiers. Jamais un policier n'est mort dans nos quartiers. Jamais un policier est mort dans nos quartiers. C'est du bien dans la tête. Ça.
Moi je me présente, je m'appelle Camara Mahamadou, je suis le grand frère de Gary Camara, mon petit frère a été tué dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine d'une balle dans la tête.
Et toi t'as décidé de venir là à ce rassemblement aussi en solidarité et contre les violences policières, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'était important pour toi de venir malgré l'interdiction du rassemblement ?
Bah c'était important de venir parce que moi de toute façon ça me choque pas, parce qu'en 2019 à une prise de parole je l'avais dit qu'on commence à être dans un pays dictatorial et c'est une réalité. Et on vit dans une dictature aujourd'hui, malheureusement, en France, avec le régime à Macron. Et interdire la marche, en fait, ça nous prouve réellement tout ce qu'on dénonce. Ça fait plus de 10 ans ou 50 ans que les gens dénoncent les violences policières. Et c'est ce qu'on subit aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est que tout le monde subit les violences policières. Il n'y en a plus, c'est plus une histoire de couleur aujourd'hui. C'est tout le monde, tous les Français subissent les violences policières. Et là, on voit réellement ce qui se passe avec la répression policière aujourd'hui en France. On ne demande pas une demande de répression, on demande seulement la justice. Et ce que l'État et les institutions nous envoient, bah c'est leurs gardes rapprochés, leurs milices. Parce qu'il ne faut plus les appeler les gardiens de la paix ni les forces de l'ordre, c'est une milice. C'est une milice qui est à la solde des dirigeants aujourd'hui, malheureusement.
Depuis la mort de Naël, la jeunesse s'est emparée de cette question, en fait, c'est reconnu. Depuis, il y a eu des révoltes, ils ont décidé d'aller dans la rue. Toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça ?
Moi, cette révolte, elle est légitime, cette révolte. Il va falloir mettre les choses dans son contexte. S'il n'y a pas la mort de Naël, il n'y a pas de révolte. Malheureusement, nous, dans notre affaire, ils n'ont pas voulu nous donner les vidéosurveillances, ils n'ont pas voulu nous donner les appels radio de la police, ils n'ont pas voulu faire de reconstitution. Donc on savait très bien que dans notre affaire, ils n'avaient pas à tuer mon frère aussi. Mais Naël, avec la vidéo à Naël, ça nous a montré tout ce que la police faisait. Ça, c'est ce qu'ils nous a montré.
Pour la suite, on sait qu'il y a eu des appels un peu, justement, cette problématique, tout le monde s'en est un petit peu emparé. Il y a eu un texte qui a été écrit par un certain nombre de syndicats. Il y a un appel à coordination nationale aussi qui a été écrit. Toi, autour de tout ça, comment est-ce que tu réagis ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Depuis 2016, à ça, un appel à la convergence. Le comité Adama, nous, on a fait partie de ça aussi. On a fait partie des mouvements Gilets jaunes. On a fait une convergence avec pratiquement toutes les luttes. Mais en réalité, avec un peu de recul, le combat il doit se mener localement au début. Parce qu'en réalité, les premières violences qu'on subit, c'est dans nos quartiers. Naël, il a été tué dans son quartier par des policiers qui sont issus du commissariat de leur quartier. Donc la première lutte qu'on doit mener, c'est la lutte locale. La convergence viendra après. Parce qu'en réalité, on nous dit convergence de lutte. Mais la convergence de lutte, nous, ça va faire peut-être maintenant combien de temps que nos anciens le réclament. Et certaines personnes ne se sentent pas concernées. En fait, malheureusement, il faut que beaucoup de gens subissent ces violences pour qu'ils puissent comprendre ce que nous avons subi depuis 50 ans. Et la convergence, certes, elle est légitime. Mais moi, le message que j'ai à faire passer à notre jeunesse et aux militants, parce qu'il faut dire, il faut des militants intègres et sincères pour mener le combat avant tout localement. Localement, c'est quoi ? C'est de s'organiser à trouver des solutions pour que nos jeunes ne tombent pas dans cette embuscade qui est... qu'on les pousse directement à la mort, c'est une réalité. Parce que tout ce qui nous arrive actuellement, moi à la mort de mon frère, j'ai dit que tout était politique, c'est un système. Les policiers, je ne l'invente pas, c'est leur propre statistique qui le dit, 70% des policiers votent un parti raciste, négrophobe, colonialiste, islamophobe et antisémite, qui est le FN. Ça, il faut le reconnaître. Donc l'image de la police, déjà, elle est tachée, ça fait bien longtemps qu'elle est tachée. Pour pouvoir comprendre pourquoi les policiers se comportent comme ça, il va falloir revenir en arrière et comprendre pourquoi la police a été créée. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la police des Noirs. Il ne faut pas oublier que les policiers ont contribué à envoyer des personnes de confession juive dans des camps de concentration. C'est ça l'image de la police française. Donc arrivé un moment, c'est un système. Et c'est ce système-là qu'il faut détruire. Et une grande personne le disait, si votre révolution est faite pour changer les hommes, vous êtes manipulé. Si votre révolution est faite pour changer le système, vous êtes sur la bonne voie. Moi, je suis là pour changer, je veux changer le système. Je ne cherche pas à changer les hommes. Parce que regardez, qui a tué mon frère? J'ai envie de dire que moi, indirectement, j'ai participé à la mort de mon frère, j'ai voté pour Hollande. Il y a une loi qui a été votée en 2017 par Cazeneuve et Hollande. Et malheureusement, c'est un parti de gauche qui l'a fait passer, cette loi-là. Cette loi-là qui permet aux policiers de tirer à deux sommations. C'est pour ça que les policiers s'amusent à canarder nos jeunes aujourd'hui pour un refus de tempérer. Alors que pour un refus de tempérer, personne n'a le droit de mourir. Et pourquoi ces jeunes-là ne s'arrêtent pas? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Pourquoi ils ont peur de s'arrêter? Parce que les policiers sont violents. Et donc, ils sont violents, ils ont peur et ils ont envie de partir. Donc, quand un jeune a envie de partir, et en plus de ça, quand vous regardez bien, la majorité des personnes qui se font canarder dans les véhicules, ce n'est pas des véhicules volés. Et même si ça aurait été des véhicules volés, ils auront pu faire leur enquête et aller les chercher.
Bien sûr.
Donc, arrivé un moment, il va falloir comprendre que tout Français doit comprendre que personne ne doit mourir dans les mains de la police française. La peine de mort, elle a été abolie en 1981, mais malheureusement pas pour certains. Pour les Noirs et les Arabes, bah, c'est une balle dans la tête, une balle dans le cœur, une balle dans le cul, une balle dans le thorax. Et la preuve, elle est là, avec l'histoire des enfants, les hommes politiques aujourd'hui qui veulent nous donner des leçons de morale par rapport à nos parents, à vouloir salir nos parents. L'avocat, là, qui est le ministre de la Justice aujourd'hui, Dupond-Moretti, il n'a aucune leçon de morale à nous donner. Son fils, c'est un délinquant. Éric Zemmour, il n'a aucune leçon de morale à nous donner. Son fils, c'est un délinquant. Nadine Morano, elle n'a aucune leçon de morale à nous donner. Son fils, c'est un délinquant. Je vais citer des noms.
Éric
Sarkozy,
hein.
Sarkozy, bon, lui, c'est un voyou. Ça fait partie du grand banditisme. Et Éric Ciotti, qui est en train de toujours nous insulter. Mais lui, il n'est pas mieux. Il a des condamnations. Et tous les hommes politiques, majoritairement, en France, sont condamnés. Et partons, mais eux, ils n'iront pas en prison. On ne leur lâche pas une balle dans la tête. Voilà. C'est ça la réalité aujourd'hui.
Cette année, il y a eu une mobilisation sociale quand même aussi assez importante. Et en réalité, ça n'a pas fonctionné. Donc, quelque part, si même quand on est 4 millions dans la rue, le gouvernement n'entend pas, comment ne pas se demander si ce qui est presque exigé, ce serait finalement que nous aussi, on passe à une forme de violence pour se faire entendre.
Aucune lutte s'est gagnée sans une révolte populaire. Mai 68, prenons exemple sur Mai 68. Les gens se sont battus, ils ont tout retourné et on a eu des droits. C'est une réalité. Les gens nous disent oui, manifester c'est un droit. Mais si manifester ne nous ramène pas la justice et nos droits, bah, le seul moyen d'expression c'est la violence. Je suis désolé.
Bien sûr.
Et les jeunes aujourd'hui qui expriment leur violence, il faut vous rendre compte que c'est des jeunes qui ont 13-14 ans. Ce n'est pas des jeunes de 26-27 ans. C'est des jeunes qui ont 13-14 ans. Donc ces violences-là, ils les subissent depuis le plus jeune âge. Moi j'en ai 38. J'ai subi les violences policières, j'ai subi des injustes. On m'a tiré dessus par des policiers bien avant 2005 à coup de flashball. Et ça, c'est assez répétitif. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'en réalité, là, nos enfants, ils arrivent, nos enfants. Si on fait rien, bah, nos enfants, ils vont encore subir ces violences policières-là. Nous, on n'accepte pas. C'est pour ça que moi, quand je dis le combat, c'est le combat d'une vie. Mais quand je dis ce combat d'une vie, c'est qu'il faut s'organiser. Parce que sans organisation, on ne peut pas s'en sortir. Il va falloir que nous, en tant que citoyens français, parce que moi, je lui dis, j'ai la carte nationale. Je suis né en France, j'ai ma nationalité française, mais je suis citoyen de seconde zone. Je suis un Français de papier. Je ne vais pas le renier. J'ai des origines. Mais il ne faut pas oublier que la France, elle a une histoire. La France, elle a une histoire. On n'est pas là par hasard. C'est aux Français, les dirigeants français qui ont décidé de lier notre histoire à la nôtre. Sinon, on n'aurait pas émigré en France. C'est la France qui a colonisé nos pays, qui a traité nos ancêtres d'esclaves et qui les a maltraités. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez, tous les monuments de la République, vous voyez, vous croyez que ça a été battu sur quoi? Sur le sang. Sur le sang de quoi? De l'esclavage. La maltraitance des gens. Donc arrive un moment, il va falloir qu'elle se regarde dans une glace et qu'elle assume son passé et qu'elle se dise la vérité. La police française, elle doit être dissoute. On ne peut pas accepter qu'il y a des policiers qui portent l'uniforme qui sont racistes dans la police française. On ne peut pas accepter. Moi, j'ai rien contre la police, je dis haut et fort. Mais l'institution, elle est pourrie, du plus petit sous-officier jusqu'au chef. C'est majoritairement tous des fachos. Et ça, on ne doit pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter parce que la France donne des leçons de morale à tous les pays alors qu'elle n'arrive même pas à balayer devant sa porte. C'est ça le problème aujourd'hui.
Une dizaine de minutes après être arrivé sur la place de la République et avoir fait quelques prises de parole, le rassemblement a été évacué par la police. Partant de la place de la République, un cortège s'est formé et a commencé une manifestation sauvage sur le boulevard Magenta pour s'arrêter au niveau de la gare du Nord.
Il y a un chiffre qui est tombé. On a dit que 13
était-elle pour la première personne? Où était-elle pour la deuxième personne? Où était-elle pour la troisième personne? Et on arrive sur le chiffre 13, qui est celui de Naël. Des images qui vont choquer le monde entier. Aujourd'hui, on a des comités qui sont là. On a des familles de victimes qui sont là, qui dénoncent leur mort depuis longtemps. On dénonce nos morts, mais ça veut dire que c'est tout de suite quand il y a un mort qu'il faut dénoncer, pour pas qu'il y ait d'autres morts. Quand on nous refuse de marcher, c'est pour que le monde entier ne puisse pas voir comment on peut s'organiser. Cette organisation qui est importante pour sauver des vies. La France n'a aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit. Nos frères sont morts, ils ne reviendront plus. Adama Traoré ne reviendra plus. Par contre, quand on se bat, on se bat pour la liberté. Mais on a le droit de donner le nom de nos frères. On a le droit de marcher pour nos frères. On a le droit. On a le droit de marcher. On va vous demander d'évacuer sans violence. C'est pas nous la violence. C'est eux la violence. Vous allez rentrer chez vous. Nous allons rentrer chez nous. Avec fierté, honneur et dignité. Pour la sécurité.
Alors que le collectif venait d'appeler à la dispersion et à la fin du rassemblement, deux interpellations ont tout de même eu lieu. Tout d'abord, Youssouf Traoré, le frère d'Assa Traoré, a été ciblé et arrêté par les agents de la Brave. Puis, Samir Eliès, un membre du comité Adama Traoré, a lui-même été ciblé et arrêté par les mêmes agents. Ils ont tous deux été mis en garde à vue et sont sortis dans le week-end. Nous vous diffusons pour terminer ce reportage la prise de parole de Youssouf Traoré à la sortie de sa garde à vue.
Youssouf, t'es sorti de garde à vue hier soir, t'as été interpellé violemment pendant la marche pour les 7 ans de la mort de ton frère Adama Traoré. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé?
Ouais, exactement. J'ai été arrêté violemment par la BRAVEM, je pense, comme ça on dit. Ils sont venus, ils m'ont chargé, j'ai rien fait du tout, on est venus pacifiquement. Et comme ils ont vu qu'on venait d'issus de la banlieue, du quartier populaire, ils n'aiment pas ce genre de personnes qui viennent demander justice et vérité à Paris. Et moi, j'ai rien compris, ils sont venus, ils m'ont chargé violemment. Et comme vous pouvez voir, regardez, il y en a encore un qui est en garde à vue, et qui j'espère qu'on va sortir très, 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 très vite. Et il y a une jeune fille aussi qui s'est fait bousculer violemment par un de ces policiers. Et que j'espère que tout ça sera puni et on ne va pas lâcher.
Merci.
Une dernière information avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Le lendemain, le dimanche 9 juillet 2023, était appelé un rassemblement au départ de l'arrêt Parc de Sceaux du RERB en direction de la maison d'arrêt de Fresnes et en solidarité avec tous les révoltés qui ont été incarcérés ces deux dernières semaines. Une fois de plus, ce rassemblement a été interdit. Et le jour même, à l'heure dite, c'est tout autour de la gare RER qu'étaient postés un certain nombre de policiers afin de pouvoir distribuer amendes, effectuer contrôles et arrestations. On fait une pause musicale et on vient ensuite dans l'actualité des luttes.
Major et pour les flics, de la confiture pour les porcs. Peut-on truander le fils comme une maison de disques? Et pas que pour l'amour du riche, je suis sceptique. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on tient beaucoup de ces kidam. Admirateur de Tam Tam, puis employeur sans état d'âme. Ça nous fera toujours des points communs. Allez, une franche poignée de main, et on oublie comme on a tous failli d'où l'on vient. Et on survit dans la niche du chien. Tout seul, apprends à fermer ta putain de gueule, même si le soir c'est bruyant. Dans certains endroits de la capitale, même enfoncé dans ma capuche, le regard fuyant. On n'est jamais à l'abri d'une balle de la police, comme du côté de Damary Lélis. Les frères ne rêvent que de rester entiers, n'allez pas vous imaginer autre chose. Connaissent la misère du travail au chantier pendant 8 heures de suite avec une heure de pause. pause. Alors écoute quand je te cause, à l'instinct du quotidien. Même si ces mots qui me viennent n'ébranleront jamais la volonté des anciens, qui pour manger et boire ont connu les cours du soir. Est-ce qu'il est le purgatoire de la clandestinité de ce côté de la Méditerranée? Ma musique porte cette empreinte, qu'on le veuille ou non. Quand toute ma génération s'escarne sur le béton, c'est toute la différence. Elle est belle la France, et qui me parle de ceux qui n'ont pas eu cette chance. Entre les mains sales suffisamment tôt et déjà des rides sur la peau, ou alors les poches vides mais les reins solides pour tous les sales. Ils nous aiment comme le feu, dites-vous-le. On ne se fait plus d'illusions.
Ils nous aiment comme le feu.
Et ouais, dites-vous-le, je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton. Ils nous aiment comme le feu,
dites-vous-le.
On ne se fait plus d'illusions.
Ils nous aiment comme le feu.
Et ouais, dites-vous-le, je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton.
Ils nous aiment comme le feu, on se défend comme on peut. Comme on croit comme ça vient, comme on refuse un collier pour chien. Rien, je n'ai rien de plus à offrir, rien de mieux à écrire. Qu'un peu de prose trempée, d'alcool à brûler. Qu'un peu de crash raclé dans le fond du gosier. On fauche bien les plaies pour le grain, nos grandes gueules le seront pour l'exemple. Et deux sales procédures pénales nous aboient dessus ensemble. Elles ont le goût de la merde fraîche, elles y ressemblent. Et sont bien drôles pour qu'on en tremble. Que veux-tu, malgré leur laisse au cul, on n'empêche pas les clébards à l'affût de pisser au pied des statues. Fiche-nous si tu veux, juge-nous c'est mieux. Mais garde tes paniers de crabes, tes miettes de table ou tes strapons teints de sable. Il y a une charge instable au bout du câble. Quand le présent se parfume d'une oraison future. Quand il se résume à conjuguer plusieurs milliers de blessures. Parmi les peines ordures, on ne marchande pas. On frappe fort plusieurs fois jusqu'à se tenir complètement droit. Et ça n'étonnera que les sourds, les aveugles ou les muets vieux. Ils nous aiment comme le feu.
Ils nous aiment comme le feu.
Dites-vous-le.
On ne se fait plus d'illusions.
Ils nous aiment comme le feu.
Et ouais, dites-vous-le. Je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton. Ils nous aiment comme le feu.
Dites-vous-le.
On ne se fait plus d'illusions.
Ils nous aiment comme le feu.
Et ouais, dites-vous-le. Je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton.
Où nous vous diffusons l'interview que nous avons réalisée avec un des membres, avec une des membres du collectif contre les violences policières de Saint-Denis.
Bon, alors, là on est quoi ? On est mardi ?
Ouais, le 11. Mardi 11 juillet 2023.
C'est ça. Et on se trouve où ?
On est à la Plaine Saint-Denis.
Avec ?
Émilie, habitante de la Plaine Saint-Denis, de la Sablière, militante contre les violences policières et militante pour la justice et la vérité pour tous les morts que l'État a causés.
Alors justement, on avait envie de pouvoir discuter un peu avec toi, car à Saint-Denis, il y a un collectif local contre les violences policières et qu'au vu des événements de ces dernières semaines, on a trouvé que ce serait intéressant de voir un peu déjà ce que vous avez pu faire et puis aussi ce dont vous pouvez témoigner. Alors déjà, peut-être on peut commencer par dire un peu depuis quand il existe ce collectif et puis pourquoi est-ce qu'il s'est monté.
Alors je suis dans un collectif qui s'est monté il y a un an à peu près. Donc il est né à la suite de la manif du 7 juin qui s'est tenue à Saint-Denis et qui dénonçait les violences policières à Saint-Denis, notamment parce que le maire Mathieu Hanotin, un maire PS, qui a été élu en 2020, a fait le choix d'une politique sécuritaire en multipliant les agents de sa police municipale, en les armant avec des armes de catégorie B et en multipliant la vidéosurveillance dans nos quartiers.
L'activité du collectif, depuis une petite année, elle se résume à quoi en gros ?
Alors, elle se résume à beaucoup de constats, parce que du coup, les violences policières, elles existent, elles sont constatables. Donc on réfléchit beaucoup aussi à comment on accompagne ces victimes. On met des moyens en place, on fait de la prévention aux droits, on leur apprend qu'ils peuvent se défendre, donc je parle des victimes. Et puis, on sert aussi de vigie un petit peu, parce que l'idée, c'est que le collectif crée un rapport de force, en fait, avec la municipalité, mais aussi à plus loin, si on pourrait, pour faire cesser ces violences sur le long terme et les faire disparaître totalement.
Donc là, il y a deux semaines, Naël se fait assassiner lors d'un contrôle policier. Suite à ça, il y a des révoltes qui se déclenchent. dans l'ensemble de la France, majoritairement dans des quartiers populaires qui, forcément, en Île-de-France, se trouvent plutôt en banlieue. Vous avez réagi comment à ces événements ?
Nous, la mort de Naël, ça nous a anéanti comme tout le monde. Et c'est bien normal. On parle d'un enfant de 17 ans. On parle d'un enfant d'une mère française, d'un enfant français qui se fait abattre par une police nationale française, le bras droit, la force armée de l'État. Et en fait, c'est juste inadmissible que quand tu te fais contrôler dans ta voiture, tu risques de te prendre une balle. Naël, c'est pas le premier. C'est donc de là que je parlais, hein, les constats ils sont visibles avant Naël, et Naël c'est le choc en fait, c'est le choc que encore avant Naël, 14 jours avant, c'était à Lucène dans la banlieue d'Angoulême. On en parle moins parce que c'est pas à Paris, mais parlons-en. La famille d'Alucène aussi veut la vérité, veut la justice. Il n'y a pas eu de vidéo, mais c'est pas pour autant qu'il avait le droit de mourir dans son véhicule en allant au travail. Avant lui, il y en a eu d'autres. Et on a accompagné, nous, par exemple, l'année dernière, la famille de Yanis, qui est décédée en 2021. Et ça a donné énormément de force au collectif que d'accompagner cette famille qui n'est pas militante, mais qui avait besoin de soutien, d'habitants qui se sont, eux, pour le coup, politisés dans le débat contre les violences policières. Parce qu'en fait, le collectif, c'est d'abord des habitants de Saint-Denis. Et ensuite, ce sont des militants. Et ça, c'est important de le dire parce qu'au niveau local, c'est hyper important que chacun et chacune se mobilise sur cette question des violences policières. Elle est importante, elle peut toucher n'importe quelle famille. Et on le voit encore à la plaine pendant les révoltes la semaine dernière. Il y a un jeune garçon de 22 ans qui a été victime d'un tir tendu de LBD et qui a perdu son œil droit. Donc les violences, elles sont systémiques dans nos quartiers. Elle touche principalement des jeunes hommes racisés, mais elle touche aussi des femmes. Le même soir que Mehdi, il y a une femme aux Ulysses qui s'est pris aussi un tir tendu alors qu'elle rentrait chez elle. Et en fait, voilà, la violence, elle déborde aussi de ce qu'on appelle les quartiers populaires, la cité. Elle va beaucoup plus loin maintenant. Elle va aussi dans les campagnes. Elle est aussi exercée par des gendarmes. Et la mort de Naël, elle a réveillé tout ça. Elle a réveillé cette colère que les gens... Les non-militants, si vous voulez, les gens qui vivent leur quotidien difficilement, eh bien, la violence de l'État, c'est inacceptable, en fait. Quand on vit tous les jours dans la violence de l'État, la pauvreté, la précarité, les galères sociales, etc., c'est juste compréhensible qu'au bout d'un moment, on ait envie de se révolter.
Vous, à partir de ce moment-là, vous avez décidé de faire des maraudes aussi, un peu, donc de descendre dans la rue la nuit pour observer le comportement de la police.
Alors oui, effectivement, le collectif, il s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment de révolte où, en fait, finalement, il y a encore plus de violences policières parce que la répression, elle a été, et je pense tout le monde en a été témoin, extrêmement dure. Et elle est encore dure aujourd'hui dans les tribunaux pour les personnes qui ont été arrêtées dans les deux semaines dernières. Et le collectif, il a beaucoup pensé à comment agir. Parce qu'il était hors de question pour le collectif que de dire aux jeunes stop la révolte. Pour nous, c'était pas possible de leur dire ça, dans le sens où tous les jours ils subissent de la violence de la police, des contrôles aux faciès, des humiliations, du harcèlement, les amendes forfaitaires qui pleuvent. Et en fait, nous en tant que collectif, on pouvait pas dire non, les jeunes, c'est pas légitime ce que vous faites. Quand on parle de légitimité, on parle de légitimité de la colère. La colère, elle existe, elle a le droit d'exister. Les moyens d'expression, ils ont été utilisés comme ils ont pu être utilisés. Et ça, effectivement, chacun se positionne comme il veut. Le collectif, en tout cas, il a préféré opter pour le dialogue la vigie sur le comportement, du coup, face à la répression. Donc, on est descendu dans les quartiers. On a organisé des groupes par quartier parce que Saint-Denis, c'est une très grande ville. Et les habitants, des gens un peu plus politisés, etc., on est partis passer nos soirées dans les rues au contact des jeunes. Et la question pour nous primordiale, c'était d'informer ces jeunes qu'ils étaient d'abord victimes de la violence policière au quotidien, mais ils étaient surtout là et qu'ils allaient être victimes de la répression. Et pour nous, le premier but, c'était de les informer sur leurs droits. Les droits en garde à vue, les droits à la défense, Et le droit à l'accompagnement aussi, parce que malgré tout, il y a des personnes qui sont là pour les aider, et c'est le rôle de notre collectif. Et franchement, les maraudes se sont super bien passées. On a pu échanger des contacts avocats avec ces jeunes-là. On a pu leur donner du matériel parce que du coup, il y avait beaucoup de gaz lacrymogène, etc., qui pleuvait. Donc, on leur a donné un peu du matériel de soins. Et notamment après le tir tendu de LBD où on s'est dit que finalement, une fois qu'ils sont blessés dans la rue, ils sont esselés et personne n'appelle les secours pour venir les aider, quoi. Donc, le collectif, il avait aussi cette mission de pouvoir rentrer la tête bien à la maison en se disant, bah voilà, nos jeunes, ils crient. Mais nos jeunes, ils crient à leur manière, mais sans se mettre en danger tout en les laissant crier.
Et alors, quand vous avez pu discuter un peu avec cette jeunesse, vous avez pu avoir des discussions au-delà de l'échange d'outils contre la répression ?
Alors, ces jeunes-là, il faut savoir que on n'a pas beaucoup d'échanges. Peut-être que c'est aussi la question de génération aussi. C'est les jeunes, ils nous appellent madame, monsieur. Donc, on voit bien que même en étant leurs voisins, leurs voisines, il y a une espèce de barrière générationnelle qui se crée. Mais c'est pas grave, ça nous empêche pas, nous, d'aller au contact parce que on était jeunes, nous aussi, dans nos quartiers. Et on sait. Et ces jeunes-là, ils se confient pas beaucoup. Il y a beaucoup de pudeur sur les violences qu'ils subissent au quotidien. Mais quand certains nous parlent, ouais, on arrive à déceler un petit peu. Donc on rencontre des jeunes de 16-17 ans qui ont déjà fait plus de 20 gardes à vue pour des motifs lambda. J'étais assis avec mon pote dans un parc, les flics sont arrivés, contrôle d'identité, j'avais pas mes papiers. Et puis ils m'ont embarqué, quoi. Et puis la vérité finalement se transforme en garde à vue parce que dans la voiture j'aurais dit des insultes et puis du coup je me serais débattue à l'arrivée du commissariat. Et là on part sur un outrage rébellion et là de nouveau la violence dans le commissariat, la violence ensuite parce que du coup on les appelle, après on les convoque et on les appelle à comparaître et du coup c'est complètement délirant et voilà, quand ils se confient c'est ça qu'ils nous disent. Mais il y en a encore trop peu qui nous font confiance. Dans le sens où ces jeunes-là, ils ont confiance en personne, en fait. Depuis trop longtemps, ils ont été délaissés. Et depuis l'école, avec l'éducation nationale. Moi, je suis enseignante. Et l'État non plus ne fait pas son travail au niveau de l'éducation nationale, dans le sens où il n'y a pas cette découverte de soi, les découvertes de ses droits en tant que citoyen. On nous demande d'être républicain, on nous demande d'être citoyen. On nous apprend l'hymne, mais on ne nous apprend pas nos droits à se défendre, nos droits à la vie. Et le droit à la vie est très important et le collectif d'ailleurs appelle à l'abrogation de l'article L435 qui donne le permis de tuer aux policiers car le droit à la vie pour nous est le plus important.
Est-ce que vous avez pu en discuter un peu de comment formuler officiellement cette revendication, essayer d'utiliser aussi peut-être ce moment où les oreilles sont ouvertes pour remettre en avant la nécessité d'abroger cette loi ?
La loi qui porte l'article L435 et notamment -1, qui donne effectivement le permis de tuer, en tout cas le fait de pouvoir plaider la légitime défense quand on tire sur quelqu'un, dans n'importe quelle situation où l'agent, le policier se sentirait en danger ou sentirait un danger pour autrui. Et même pour la personne finalement qui conduirait son véhicule en cas de possession de véhicule, enfin sur un contrôle routier comme c'était le cas pour Naël. Donc en fait, il pourrait tuer une personne pour la protéger elle-même, ce qui est quand même un article assez particulier. C'est un article donc qui est voté en 2017 dans une loi ultra sécuritaire sous le gouvernement Cazeneuve, Hollande. Et en fait, effectivement, tu rappelles que ça fait des années que cette loi, elle est meurtrière, puisque effectivement, elle permet un laxisme. Elle permet aux policiers finalement de tirer et de se dire bon ben je tire et derrière je dirais qu'on a essayé d'attenter à ma vie. En tout cas, j'ai ressenti un danger pour moi ou mon collègue ou alors nous le collectif on suit ça depuis qu'on est né, puisqu'on est né il y a un an, donc forcément on est né dans le bain de toute cette violence. Il faut savoir que l'année 2021 et l'année 2022, il y a eu énormément de meurtres sur de crimes policiers sur refus d'obtempérer, donc qui répondent à cette loi de 2017. Et donc tous les policiers aujourd'hui se sont très peu inquiétés des suites, puisque du coup ils font valoir la légitime défense. Nous le collectif, ça nous parle énormément parce que le 16 mai 2023, un policier municipal a tiré sur un automobiliste après une course-poursuite qui avait été entamée à Paris. Et donc, il a tiré près du Stade de France et il a visé la tête. Et ce qui est avancé par les médias, parce que ça a fait la une, mais juste un soir. Tu vois, le lendemain, ça s'est éteint complètement. Et ça aussi, ça nous questionne énormément. Mais revenons-en au fait. Dans les articles, ce qui est avancé, et notamment par Actu 17, la voix des policiers, ils disent que l'automobiliste s'est encastré dans un véhicule au feu rouge et il aurait redémarré et il aurait essayé d'écraser la collègue. Et c'est pour ça que l'agent fait feu pour sauver sa collègue. On a deux témoins qui ont contacté le collectif et ces deux témoins disent effectivement le véhicule s'encastre au feu rouge. C'est ce qui nous alerte puisque nous sommes nous-mêmes arrêtés au feu rouge. Et quand on se retourne, le véhicule est encastré et le policier arrive en dessous d'un pont. Donc c'est-à-dire qu'il n'a aucun visuel sur le véhicule au moment où il s'encastre et il fait directement feu en direction du pare-brise et de la vitre du conducteur. Il n'a jamais redémarré puisqu'il est toujours encastré dans un véhicule. Il faut savoir que dans les photos qui ont été relatées par la presse, le véhicule a été déplacé. Il semble être tout seul au feu rouge, sans aucun autre véhicule à côté de lui. Et ça, effectivement, ça nous questionne énormément sur cette loi de 2017 qui, finalement, pour l'instant, couvrait que des policiers nationaux, des gendarmes. Aujourd'hui, est-ce qu'elle va couvrir aussi des agents municipaux? Donc des policiers municipaux qui sont absolument pas formés, qui sont recrutés par des maires, qui reçoivent des consignes des maires, puisque ce sont leurs responsables. Et en fait, oui, ça nous questionne énormément sur les dérives que cette loi peut apporter à notre société, quoi. Encore plus si elle s'élargit aux autres polices et des polices encore moins formées, avec encore moins de cadres.
Alors, tu abordais là dans cette affaire, le traitement médiatique qu'elle avait subi, ça va faire maintenant bientôt presque 3 semaines qu'on est tous soumis à une certaine propagande médiatique suite à la mort de Naël. Par rapport à ça, toi, sur cette manière de traiter les infos, enfin, comment tu as envie de réagir ?
Alors nous, on invite le collectif, je pense tout le collectif est d'accord, on invite à pas suivre les médias. Le problème, c'est que les médias aujourd'hui, ils ont une ligne éditorialiste qui ne reconnaît pas les violences policières. On a même d'ailleurs des gens qui combattent aux côtés des proches de victimes qui ne reconnaissent pas le problème policier. On ne parle pas, comme tu disais tout à l'heure, de l'article L435, on ne parle pas de la dangerosité de cette loi de 2017, finalement, qui englobe encore plus que l'article L435. Il y a d'autres choses dans cette loi hyper sécuritaire que j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller consulter. On doit connaître nos droits, on doit connaître les lois et on doit se servir de ça pour les dénoncer et pour demander leur abrogation quand elles permettent des dérives qui sont meurtrières et qui touchent de plus en plus de familles.
Alors, on a vu comment est-ce que justement cette jeunesse, elle était décrite par les grands médias. Vous êtes allé au contact de cette jeunesse, puis par ailleurs, en fait, vous habitez dans la même ville que tous ces jeunes. Si toi, tu devais décrire cette jeunesse, tu la décrirais comment ?
C'est une jeunesse, c'est une jeunesse, celle qu'on a tous vécue, mais c'est une jeunesse qui est incomprise pour moi. Et je le rappelle encore une fois, tout se passe dès le début au niveau de l'école. Si on ne crée pas des espaces où les enfants peuvent s'exprimer, et je ne parle pas que des quartiers populaires, je parle vraiment et j'englobe vraiment tous les enfants, il y a besoin d'espace, d'échange, de tolérance, de considération. Et que du coup, ouais, je pense que vraiment le mot considération, c'est hyper important. C'est une jeunesse qui est inconsidérée pour moi. Ils sont pas compris, ils sont pas écoutés en fait. Il y a aucun espace. Et quand nous on va au contact d'eux lors de nos maraudes et lors d'autres événements, on a participé à une fête de quartier il y a 3 semaines du coup, juste avant le meurtre de Naël, le samedi qui a précédé. Les jeunes ils étaient là quoi, ils étaient avec nous et en fait si on leur donne ces espaces où on les considère simplement, où on les considère, ces jeunes ils sont comme nous quoi. Enfin. Ils n'ont pas des codes particuliers, ils n'ont pas des. Par contre, ce qu'on peut relever, c'est qu'on a une société hyper raciste aujourd'hui et que les jeunes de quartiers populaires racisés souffrent énormément de ce racisme systémique qui est vraiment ancré dans notre État, quoi.
Y a eu une lettre, un appel signé par des syndicats et des partis. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cet appel ? Et du positionnement, peut-être même plus au général, de ces syndicats et de ces partis qui eux-mêmes étaient dans la rue lors de cette année.
Alors, moi, j'ai suivi, pour ma part, de près ces coordinations qui se sont montées. Donc, la première, qui est une coordination plutôt politique, qui s'est formée autour des syndicats, de partis politiques, qui a été appelée par Solidaires. J'ai aussi participé au montage d'une seconde coordination qui est celle, cette fois-ci, des proches de victimes qui sont directement les premiers concernés par ces violences policières et étatiques. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que au niveau des familles de victimes, on a l'habitude de s'organiser ensemble et je pense que c'est hyper important qu'on continue à le faire et qu'on s'unisse vraiment autour de ces questions-là. Et encore plus maintenant, parce qu'il y a la brèche qui est faite et qu'il faut s'en saisir, c'est maintenant, l'opportunité, c'est ensemble. Parce que si on y va chacun d'un côté, on semblera désorganisé, ça prendra pas, ça marchera pas. Mais ce que j'aimerais surtout, en tant que militante dans des collectifs et dans des associations de justice et vérité et de contre les violences policières, c'est surtout que les grandes organisations politiques, les grands syndicats, ceux qui arrivent à mobiliser des millions de personnes dans la rue quand on appelle à des grèves de travailleurs, c'est qu'ils appellent aussi à manifester contre les violences policières, parce que la révolte, c'est pas que la nuit avec les jeunes et notre jeunesse française, c'est aussi avec nos travailleurs, nos ouvriers, nos femmes, nos hommes. Et c'est vraiment important que toute la société dénonce ce système, parce que c'est un système qui nous pourrit encore plus, et qui fait arriver l'extrême droite encore plus. Elle est déjà là. Hein. Alliance, c'est un syndicat d'extrême droite au sein de la police. Il faut mettre des mots dessus. Et comment on appâte dans ce syndicat? Et ben à coup de privilèges. Et en fait, aujourd'hui, tu peux être flic, tu peux gagner ton salaire, tu peux tuer et être protégé. En tout cas, tu peux violer, tuer, humilier et être protégé. Et en fait, derrière... ça crée une société de privilèges et une société un peu d'impunité. Si tu veux, moi, quand on parle de non-droit, c'est eux que je vois dans le non-droit, en fait. Il y a pas de loi, il y a plus de code, il y a rien, en fait. Et pour moi, ça pourrit notre société et ça la rend hyper fragile. Et elle est déjà hyper fragile, économiquement parlant, etc. Et les violences policières, aujourd'hui, pour moi, la police, c'est ce qui tient l'État. Et en fait, si on s'attaque à ça, ça fait peur. Et c'est pour ça que la répression, elle est forte. Mais c'est pour ça qu'on doit l'attaquer. Parce que je pense qu'on touche vraiment du doigt ce qui tient encore aujourd'hui notre système raciste, capitaliste et écologiquement pas respectueux.
Finalement, ce que tu mets en avant, c'est un manque de considération au plus global qui s'exprime aussi à travers l'ordre tenu par la police. C'est un ordre social. Résultat, ce manque de considération, quand il s'exprime pas par la police... À Saint-Denis, je suppose qu'il s'exprime aussi à plein d'autres niveaux. Est-ce que tu as des exemples de ce que, par exemple, toi, tu mettrais en avant sur ce qui serait nécessaire pour la ville de Saint-Denis à la place d'armer la police?
Oui, déjà, on enlève les armes, effectivement, à ces policiers municipaux. On l'a réduit aussi parce qu'ils ont tellement envahi l'espace visuel de notre ville que ça en devient vraiment inquiétant. Ils sont sur tous les trottoirs. Alors, pas depuis qu'ils ont tiré dans la tête de ce pauvre jeune homme dont on n'a aucune nouvelle. Mais effectivement, ce qu'on aimerait dire à la ville de Saint-Denis, c'est que le maire n'a pas besoin d'aller en gilet pare-balles à Gabriel Péri. J'y travaille et j'y travaille sans gilet pare-balles auprès des enfants et des jeunes. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'il nous laisse nos ludothèques, nos médiathèques, nos espaces jeunesse, qu'il arrête de virer des animateurs, qu'il ait une politique éducative qui respecte la culture des enfants et qui les emmène vers une culture riche sans enlever les cars qui vont dans Paris et les interdire d'aller à la mer. Et en fait, à partir de là, je pense que la ville déjà aura fait un grand effort. Et puis d'arrêter d'axer cette politique tout vers les JO 2024, parce qu'en fait, les Dionysiens... ils vivent pas que 2024, ils vivent avant, ils vivent après, et ils vont continuer surtout à vivre après. Et nous, on a aussi peur de l'héritage des JO, on aura plus de 400 caméras, on aura la reconnaissance biométrique qui a été validée là très récemment et qui a été dénoncée par la Quadrature du Net notamment. Des policiers municipaux, enfin je sais même pas combien ils sont, mais ils sont tellement que ça en devient incroyable, avec des équipements. On a Madame Taser, donc c'est une policière municipale qui se balade avec son taser jaune sur la poitrine à n'importe quelle heure de la journée dans la ville de Saint-Denis. Enfin voilà, on a un climat en fait qui s'installe et qu'on ne veut pas. Et je rappelle que Mathieu Hanotin a certes été élu sur sa ville avec cette politique sécuritaire, mais il a été élu avec 8000 voix pour 50 000 habitants. Donc il ne représente absolument pas la majorité des Dionysiens.
Alors tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il y avait deux coordinations. Donc une qui avait été mise en avant par les syndicats et les partis, et une autre plutôt à l'appel des familles, qui, elle, a fait un appel national pour la date du 15 juillet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est cet appel ?
Ouais, effectivement, à la suite du meurtre de Naël et surtout des émeutes et de la répression, on a pensé dans beaucoup de collectifs qu'il fallait se rapprocher parce que justement c'était le moment de dénoncer massivement au-delà de nos réseaux habituels. Et effectivement, c'est très vite organisé. Il y a eu une première réunion, puis une deuxième. On a acté la naissance de la coordination donc des proches de victimes de violences policières, coordination nationale. Et on a voté donc on a écrit et voté un texte, un texte qui à la fois appelle au rassemblement du coup autour des familles de victimes. Donc c'est pas juste les familles qui doivent se réunir, c'est toute la France qui doit se réunir autour de ces familles qui ont perdu un proche ou ont été victimes ou mutilées ou blessées et autres. Et effectivement, la coordination, donc dans ce texte, elle dénonce que ce qui se passe c'est systémique. Elle dénonce le racisme qui imprègne les différentes strates étatiques de notre pays. Et surtout, elle a des revendications, cette coordination. Elle marche pas pour rien, elle marche pour faire du bruit, elle marche pour dénoncer, mais elle demande surtout l'abrogation du permis de tuer, donc l'article L435. Elle demande un organe indépendant qui ne soit plus l'IGPN, car on ne peut pas contrôler une police par la police elle-même. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, rappelons-le, très très peu d'affaires ont mené à une condamnation d'un policier, même dans les cas les plus graves, donc de meurtre, comme on l'a vu. On demande aussi à ce que les familles marchent, accompagnées de la majorité des Français, le 15 juillet à 15h, à partir de République.
Alors, ça fait plusieurs fois qu'on revient sur cette question, au final, de ne pas laisser les familles dans l'isolement, donc quelque part de considérer qu'on est tous et toutes concernés par cette question des violences policières. Si toi, tu devais l'expliquer à quelqu'un, quels arguments tu mettrais en avant ?
Bah, pour lutter contre les violences policières, je pense qu'effectivement, faut pas attendre de se sentir concerné déjà directement. Faut pas attendre d'être soi-même victime ou d'avoir un pote victime ou un proche victime. Je pense que c'est encore plus aujourd'hui, parce qu'encore plus aujourd'hui que la question est posée médiatiquement parlant, il faut s'en saisir et il faut. Alors les arguments, c'est lesquels ? C'est tout simplement effectivement permettre à chacun d'avoir le respect et la considération qu'il mérite. Et ça passe par, pour moi, selon moi, pas de police, en tout cas pas celle qui existe aujourd'hui, pas celle qui est armée quand elle entre dans des quartiers, pas celle qui arrive avec un regard de casseur et qui fait tout de suite des contrôles. Enfin, le contrôle, à la base, il doit être motivé. Donc là, on est dans des choses qui, finalement, deviennent pour eux des habitudes, des règles. Je contrôle, je descends de ma voiture, je contrôle ce groupe-là. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire avec le collectif, c'est effectivement d'aller voir ces jeunes-là et de leur dire « Attends pas d'en avoir marre, attends pas d'être victime, attends pas que tes proches ou tes potes soient victimes. » C'est « Commence déjà à dénoncer maintenant ce qui se passe et viens lutter avec nous. » Les jeunes, c'est difficile de les avoir, mais je pense qu'en multipliant les espaces d'échange, on aura tout leur...
Attention.
Ouais, toute leur attention, mais surtout, ils auront toute leur place. À nos côtés.
On vit dans un état de plus en plus sécuritaire. Ça concerne tout le monde. Et en réalité, la lutte contre les violences policières, c'est aussi une manière pour toutes et tous de lutter pour vivre dans un état de partielle liberté, soumise là pour l'instant encore à des nécessités monétaires. Mais... lutter contre les violences policières, c'est aussi lutter contre une manière qu'on a de nous gouverner.
Ouais. Et d'ailleurs, on l'a vu juste avant l'épisode du meurtre de Naël. On a eu l'épisode de la dissolution des soulèvements de la Terre. Et là aussi, on est sur un mouvement écolo, un mouvement qui est tout à fait légitime. Hein. Vouloir sauver sa planète, c'est quand même... Voilà. Et en fait, il y a des gens courageux qui le font, alors effectivement, avec leurs moyens d'expression, mais qui le font pour nous tous et nous toutes. Et en fait, l'État répond par un autoritarisme décomplexé en dissolvant une multitude d'associations et de collectifs qui se sont finalement juste mis en réseau, puisque les Soulèvements de la Terre n'est pas une organisation à proprement parler, mais une multitude, un agrégat de collectifs et d'organisations. Et en fait, tu te dis, mais attends, là, si il arrive à dissoudre quelque chose qui n'existe pas, mais que peut nous inventer l'État qu'on a aujourd'hui, en tout cas le gouvernement qu'on a dans cet État. Je tiens quand même à rappeler que c'est pas une question de gouvernement, pour moi, c'est une question d'État, parce que c'est systémique et parce que le racisme n'est pas né avec Macron, le racisme n'est pas né avec le Karcher de Sarkozy, le racisme, il est là depuis que la police existe, depuis qu'on a créé les colonies, depuis que certains Français ont pensé que la décolonisation était une mauvaise chose et que du coup, les étrangers qui sont venus en France devaient subir la répression toute leur vie pour être des immigrés ayant choisi de vivre en France parce que la France avait choisi de coloniser leur pays auparavant. La police, elle est coloniale, la police, elle est raciste. Et la police, elle tue aussi pour ça. Dès l'école, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la question de l'enseignement, la politique éducative, la politique de l'enseignement qui est menée à travers les gouvernements, mais qui se poursuit d'état en état. Je veux dire, quand Sarkozy, il a fait les programmes sous son gouvernement, les programmes, ils n'ont pas été changés sous Hollande et ils n'ont pas été changés sous Macron. Donc, en fait, il y a une continuité, si tu veux, où, comme tu dis, on met dans des cases et ça arrange une certaine partie de la société française que une autre partie de la société ne soit pas dans le même tiroir. Il y a un tiroir où il y a des privilèges et il y a un tiroir où il y a la précarité. Et c'est comme ça que la société doit fonctionner, parce que si on avait tous des privilèges, voilà, ce serait moins drôle quand même.
Tu veux dire que l'égalité, ça ne fonctionne pas dans une société capitaliste ?
Exactement. Ah bah le capitalisme. Et vive la société libre et égale.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.